L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Nous sommes le vendredi 27 novembre et Claire est toujours avec nous. Bonjour Claire.
Et oui, bonjour tout le monde, en direct de Laval, où il fait beau ce matin, donc tout va bien.
Eh bien, tant mieux, si vous voulez un petit point ciel du côté de Château-Gontier, on est un petit peu moins ensoleillé. Voilà, c'était le petit point ciel de midi 16. Aujourd'hui, donc, on va parler de la réserve civique qui a été mise en place pendant le premier confinement. Elle met en relation des bénévoles et des structures en manque de bras. C'est le cas de l'établissement d'accueil pour personnes en situation de handicap à Mayenne. Un projet éolien qui n'a pas connu de recours en justice, ce n'est pas si fréquent. On part à Saint-Hilaire-du-Maine où les éoliennes sont financées en partie par un collectif de citoyens. Et puis, cinquième et dernier reportage au sein d'une résidence Habitat Jeune à Laval. Nous avons donné la parole à la directrice, aux animateurs, aux agents d'entretien, aux cuisiniers. Il ne manquait plus que les résidents eux-mêmes.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, des chiffres à la baisse et des efforts qui commencent à payer.
Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé, a tenu hier des propos rassurants sur l'évolution de l'épidémie, avec un point important, éviter le relâchement pendant les fêtes, en continuant à respecter les gestes barrières et les règles de distanciation, et en protégeant aussi les plus fragiles lors des rassemblements familiaux. Le taux d'incidence régionale est passé sous la barre des 100, et le taux de positivité des tests est lui aussi repassé sous la barre 10% en s'établissant donc à 9,3%.
Laval Agglo sort le porte-monnaie pour aider l'économie locale.
Le conseil communautaire a validé hier un nouveau fonds d'urgence, 1,1 million d'euros pour soutenir les entreprises du territoire de moins de 20 salariés concernées par une fermeture administrative. Les aides forfaitaires iront de 1 000 à 2 000 euros selon le nombre de salariés. Dossier disponible sur la plateforme Laval Click and Support ou en contactant Laval Économie. Et une deuxième opération lancée par Laval Agglo, des tickets commerçants de 5 euros à utiliser par tranche de 25 euros d'achat chez les commerçants locaux inscrits au dispositif. L'opération commence le 10 décembre et se poursuit jusqu'au 28 février.
La Banque alimentaire lance aujourd'hui sa grande collecte.
Une collecte claire d'autant plus importante alors que ses stocks sont au plus bas et le nombre de bénéficiaires augmente dans les associations à cause de la crise sanitaire. Collecte maintenue en présentiel, donc avec des bénévoles présents sur place à Laval, Mayenne et Château-Gontier. Elle se poursuit jusqu'à demain soir et vous pouvez toujours faire un don sur monpaniersolidaire.org. Le Secours Populaire annonce aussi la réouverture de son vestiaire demain à Château-Gontier, de 9h à midi et de 14h à 17h. Ouverture exceptionnelle ensuite du lundi au samedi, de 9h à midi jusqu'au 19 décembre, et sans compter les vendredis après-midi, ouverture prévue de 14 à 17h. Même signal pour Emmaüs, la réouverture se fera demain dans les espaces de vente de l'association à Laval, Mayenne et Villiers-Charlemagne.
Une manifestation contre la loi Sécurité Globale, demain à Laval.
La Ligue des Droits de l'Homme et 15 autres organisations appellent à manifester demain samedi à 15h, place du 18 juin à Laval. La loi Sécurité Globale, a été votée mardi, mais les organisateurs demandent son retrait et estiment, je cite, que c'est une nouvelle étape de la généralisation de la surveillance et de la mise sous contrôle des faits et gestes des citoyens, des atteintes à leur liberté et à la liberté d'informer, de l'impunité des violences policières. Fin de citation.
Sur la route du Vendée Globe, Maxime Sorel se dirige lui aussi vers le Grand Sud.
Et oui, Maxime Sorel, le skipper de VNB Mayenne, occupe toujours la 14e place. Fabrice Amedeo, le skipper originaire de Château-Gontier, est actuellement 25e et longe le Brésil.
Et le foot, Erwin Tah arrive à Laval.
La promesse d'un nouvel attaquant a été tenue par le Stade Lavallois. Erwin Tah a été prêté par Guingamp qui évolue en Ligue 2. Laval affronte ce soir le promu, 7 à 18h au Stade Francis Lebasserre.
Aujourd'hui, à la une du Haut-Anjou, le restaurant de Ballot ne sera plus couvert par l'assurance.
Touché par la crise sanitaire, les gérants du bar-restaurant L'Atelier à Ballot ont eu une mauvaise surprise cette semaine. Leur assureur a indiqué que la clause pandémie qui couvrait leur perte d'exploitation allait être enlevée. Coup dur alors que les restaurants ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier au plus tôt. Un peu plus loin dans le journal, un point plus général sur l'impact de la crise dans le département. Selon la direction des finances publiques de la Mayenne, les entreprises du département auraient déjà perdu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis le début de l'année, avec évidemment des secteurs plus touchés, on en parlait juste avant, l'hôtellerie-restauration, moins 38%, et l'industrie manufacturière, moins 15%. On rappelle que toute entreprise en difficulté peut appeler le 0806 000 245. En page Château-Gontier, zoom sur la belle initiative de Thierry Huette. Quand il parcourt autour de chez lui, il ne fait pas que se dépenser, il ramasse aussi les déchets sur son chemin. Et malheureusement, il a de quoi faire. Déjà 13 kilos de déchets récoltés en seulement 3 sorties. N'hésitez pas à limiter et à vous lancer en courant ou en marchant ce week-end. On rappelle aussi que le périmètre des sorties autorisées s'est élargi à 20 kilomètres. Et puis on termine notre petite revue de presse avec un jeune Mélinois qui a eu la chance de rencontrer Philippe Etchebest. Clément Tarin a participé à Objectif Top Chef. Il avait imaginé un plat mêlant canettes et cerises, puis une fourme de Montbrison en burger gastronomique. Le jeune homme suit un BTS cuisine et veut continuer à participer à des concours et bien sûr il espère retravailler le plus vite possible.
Et Marie, à Mayenne, on fait appel aux bénévoles de la réserve civique.
Plateforme en ligne de mise en relation entre des bénévoles motivés et des structures dont les actions sont mises à mal par la crise sanitaire. À Mayenne, le PSMS, l'établissement public social et médico-social de la Filousière, recherche justement un bénévole. Il interviendra à la MAS, la maison d'accueil spécialisée et aux femmes foyers d'accueil médicalisés qui hébergent des personnes en situation de handicap. Prunelle Bloch, la directrice de l'établissement, détaille la mission.
Pour nous permettre d'accueillir les familles dans le cadre des visites dans la situation sanitaire actuelle, de permettre peut-être d'agrandir les plages de visite, en tout cas d'accueillir les visiteurs, le respect des gestes barrières et libérer du temps de personnel pour qu'il soit au plus proche des personnes que nous hébergeons. Actuellement, on venait en visite sur rendez-vous l'après-midi de 14h à 17h. On ne peut pas accueillir le week-end parce qu'on n'a pas assez de... Ça prend du temps quand même d'accueillir puisqu'il faut réexpliquer tous les gestes. Placer les gens dans une salle pour qu'il y ait les distances. L'idée d'avoir un bénévole permettrait peut-être d'ouvrir le week-end en fonction des plannings, peut-être d'ouvrir un petit peu plus tard le soir, et puis aussi de voir comment ça se passe dans la salle, parce que les familles, et ce que je comprends, en ont un peu marre aussi, et puis il faut rappeler de nombreuses fois le port du masque, les nettoyages de mains, et donc de faciliter ces temps de rencontre.
Aucun cas de Covid n'a été détecté pour le moment, mais la présence d'un bénévole est très attendue par les soignants qui doivent eux-mêmes se charger de l'accueil des familles pour le moment.
Ça prend du temps parce qu'il faut les visites sont sur rendez-vous, donc il faut qu'un professionnel se détache, fasse l'accueil des familles. On a un auto-questionnaire à l'entrée, donc il faut que les familles le remplissent. Et donc comme on a 3 créneaux de visite par après-midi, c'est forcément un professionnel qui est donc plus dans l'accompagnement quotidien et journalier. Ah oui, c'est vraiment fondamental pour nos résidents, pour les familles. Il y a déjà beaucoup de restrictions puisqu'ils ne peuvent plus leur donner à manger, ils peuvent plus. En ce moment, il n'y a pas de sortie à domicile de nos résidents chez leurs proches. Donc on a des familles, par exemple, pour certains qui viennent plusieurs fois par semaine. Donc c'est vraiment essentiel pour le moral de tout le monde et l'état général de nos résidents.
La mission est accessible dès à présent et pourrait se poursuivre début 2021. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter au 02 43 32 07 54 ou par mail à epsms.contact@lafilousière.fr. Un collectif de citoyens qui s'investit dans un projet éolien, c'est une première en Mayenne et ça se passe à Saint-Hilaire-du-Maine. La suite d'ici quelques minutes après avoir écouté Jacques Schwartz-Barth avec Feel So Close.
Die.
écoutez l'agité du local sur l'autre radio. 4 éoliennes sortent de terre à Saint-Hilaire-du-Maine, vous les avez peut-être déjà vues. L'aboutissement d'un projet lancé en 2012 et rejoint 2 ans plus tard par l'association Vent Citoyen, un collectif qui participe financièrement à 25% du projet. On fait le point justement avec un représentant de l'association. Hervé Judon, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'un des 4 coprésidents de l'association des Vents Citoyens, association qui participe au financement d'un grand projet, celui de l'installation de 4 éoliennes à Saint-Hilaire-du-Maine. Déjà sur place, si vous passez à côté, vous voyez les 3 éoliennes qui sont déjà debout, il en manque une qui est encore en construction. Est-ce qu'on peut revenir déjà un petit peu sur l'origine de l'association, donc qui s'est créée en 2014 ?
C'est parti déjà de la commune de Saint-Hilaire-du-Maine, enfin de ce conseil municipal qui a été sollicité par un développeur qui s'appelle Abowin à l'époque pour monter un projet de 4 éoliennes sur son territoire. Et cette municipalité à l'époque avait souhaité que ce projet s'associe à des citoyens. Et en fait, au niveau local, il y avait déjà une petite association qui s'appelait Luciole qui avait fait tout un travail autour des énergies renouvelables. Des particuliers qui avaient investi dans du photovoltaïque, des choses comme ça, dans des chauffe-eau thermaux, du chauffage solaire, pardon. Et donc, le conseil municipal de Saint-Hilaire et cette association se sont communiqués, ont organisé une première réunion en 2014 où on était à peu près une 60aine de personnes, où s'est constituée, suite à ça, l'association Vents Citoyens. Puisque le projet a intéressé d'emblée 50aine de personnes.
Et alors donc dès le début, l'idée c'était vraiment de participer financièrement au projet. Qu'est-ce qui vous motivait tous ?
Tout à fait, puisqu'en fait même on était très ambitieux puisqu'on avait l'objectif c'était d'acquérir un parc dans son intégralité. En fait, on avait suivi pour un certain nombre d'entre nous l'expérience qui a eu lieu à Bégane, donc en Morbihan, qui est une expérience où des personnes se sont associées et dès le départ sur un projet, c'est-à-dire qu'ils ont acquis le foncier et ils ont fait toutes les études et ils ont abouti à la construction d'un parc au bout d'une douzaine d'années. Donc cette idée-là, on voulait la reproduire en Mayenne. Sur le cas de Saint-Hilaire-du-Maine, en fait, l'association s'est créée un peu tardivement. On est arrivé, le projet était déjà en cours. Donc, en fait, le développeur Abowin avait déjà réalisé toutes les études. Et donc, on pouvait s'inscrire dans ce projet-là, mais uniquement soit par le rachat du projet dans sa totalité, ce qu'on appelle un rachat clé en main, ou par une participation, c'est là-dessus qu'on a abouti au final, c'est qu'on a participé à hauteur de 25% du parc, mais l'objectif au départ c'était bien d'acheter le parc dans son intégralité. Bon, les négociations n'ont pas pu permettre d'aller au bout, mais la société Abowin nous a quand même permis d'acquérir 25% de la valeur du parc. Donc aujourd'hui on en est là, on a bien acquis 25% de la valeur du parc.
Ce qui est déjà pas mal puisque je crois que le coût total du projet c'est 21 millions d'euros, donc il faut quand même un quart de cette somme, il faut déjà la réunir.
Alors tout à fait, c'est des montants assez importants. On n'est pas bien habitué, nous en tant que particulier, à manipuler des chiffres comme ça. Après, 21 millions d'euros, ça, c'est la valeur totale du parc. Le capital qu'il fallait apporter au départ, c'est 4 millions d'euros, puisqu'en fait, en gros, on apporte à peu près entre 20 et 25% du montant total de l'investissement. Et donc, on est concerné par un quart de cette somme-là, c'est-à-dire donc 1 million d'euros. Donc on s'est associé avec d'autres partenaires, en fait, qu'on a été chercher, notamment Territoire d'énergie Mayenne, qui est le syndicat d'électrification mayennais, qui a accepté de suivre ce projet-là en association avec nous, et donc qui a apporté un financement qui n'est pas négligeable, puisque sur les 1 million d'euros, ils apportent à peu près un tiers du financement. Et sinon, on a aussi Énergie Partagée comme autre partenaire, qui est une sorte de fonds d'investissement national. Enfin, c'est une structure qui collecte des fonds citoyens et qui les flèche en direction de projets d'énergie, de production d'énergie renouvelable. Et donc, Énergie Partagée, pour ce qui nous concerne, abonde à hauteur de 150 000 euros sur notre projet. Donc, du coup, nous, en tant que citoyens, on devait réunir sur les 1 million d'euros de départ, on devait réunir à peu près 650 000 euros en réalité. Donc, et on s'est rendu compte que finalement, c'était assez. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, parce qu'il faut quand même faire un certain nombre de réunions et motiver un certain nombre de personnes pour, et surtout que les personnes croient dans le projet. Mais finalement, on a été un peu victime de notre succès, puisque les 650 000 euros qu'on avait besoin pour financer ce projet-là, on a eu assez peu de difficultés à les réunir, voire même on avait à la fin, au moment, à la clôture du financement, on avait un excès d'argent, entre guillemets. C'est-à-dire que des gens sont forcément, ça fait un peu boule de neige comme principe, c'est-à-dire que les gens amènent une somme d'argent, en parlent à d'autres, et d'autres disent bah, tiens, pourquoi pas moi? Et puis finalement, les gens au départ mettent une certaine somme, une petite somme, puis plus ils ont confiance dans le projet, plus ils disent ben, finalement, on va mettre une somme plus importante. Donc en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que finalement, l'épargne citoyenne était quand même relativement simple à mobiliser quand c'est des projets qui ont du sens. Et voilà.
Qu'est-ce qui peut expliquer un tel succès selon vous? C'est vraiment la nature du projet?
Mais complètement, parce qu'en fait, on n'a pas si souvent que ça l'occasion d'investir son épargne comme ça directement dans un projet qui nous concerne, qui est vraiment à proximité de nous, puisque c'est sur le département, c'est des gens avec qui, enfin, les gens qui ont participé pas mal se connaissent, c'est à travers un réseau qu'on a approché ce projet-là. Donc, et puis, c'est un projet qui a du sens, c'est quand même la production d'énergie renouvelable, c'est pas rien en termes de. L'avenir pour notre planète, c'est-à-dire que voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille aujourd'hui, puisqu'il faut chercher à décarboner l'énergie. Donc, je pense que l'éolien en fait partie. Donc, je pense que les gens ont vraiment accroché à ce projet-là parce qu'effectivement, c'est très local. On a l'impression qu'on voilà, c'est vraiment concret. C'est-à-dire que même, et puis une éolienne en plus, on la voit. Hein, alors pour certains, peut-être un peu trop, mais voilà, je pense que c'est ça qui fédère les gens. Et puis aussi l'aspect collectif, je pense que ça aussi, ça motive les personnes, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas forcément d'arriver avec des grosses sommes d'argent. Il y a un certain nombre de clubs d'investisseurs qui se sont créés autour de ce projet-là. Et à travers un club d'investisseurs, même quelqu'un qui voulait apporter 300 euros, eh bien, en fait, rentrait dans un club et pouvait investir pour 300 euros dans ce projet qui est effectivement d'un montant de 21 millions d'euros au total. Mais finalement, on pouvait apporter sa petite goutte même avec, si on n'a pas de gros moyens financiers, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que les gens se sont motivés par ce projet.
Parce qu'on le sait, il y a quand même, en tout cas sur d'autres projets éoliens, des oppositions. Là, j'étais surprise en faisant quelques petites recherches de voir qu'il n'y avait pas eu de recours en justice sur ce projet. Donc, preuve justement que ce projet a vraiment remporté l'adhésion de pas mal de personnes, en tout cas ici.
Bah, je crois qu'effectivement, à partir du moment où c'est un groupe de citoyens qui se mobilise autour d'un projet, je pense que les anti-éoliens n'ont pas forcément de raison d'aller, entre guillemets, chercher des ennuis à des projets comme ça, puisque c'est à l'encontre de citoyens. Alors que, effectivement, quand c'est des grosses entreprises qui viennent de l'étranger, qui s'implantent et qui ne demandent rien à personne et qui, voire, ne respectent pas forcément. Les habitants du secteur, en imposant un projet. La démarche est totalement différente puisque effectivement, des citoyens s'impliquent dans ce projet-là. Les gens peuvent nous interroger directement sur le projet. On est une petite association locale. On est identifié. On peut répondre à des questions. Je pense que c'est pour ça que les personnes qui sont contre ces projets-là n'ont pas forcément cherché à lutter en particulier contre celui-là, parce qu'effectivement, nous étions présents sur le terrain et nous étions là pour faire de la pédagogie autour du projet.
Et qu'est-ce qui, vous, plus personnellement, vous a intéressé dès le début?
En fait, moi, je suis un peu un local de l'étape, puisque j'habite pas très très loin de Saint-Hilaire-du-Maine. Et j'ai été sollicité par un ami qui avait eu le contact justement avec la commune de Saint-Hilaire-du-Maine pour ce projet-là. Moi, personnellement, je suis agriculteur, je suis en bio, ça fait 25 ans, et je m'interroge toujours sur produire propre, quoi, c'est-à-dire que à la fois de l'alimentation, mais aussi de l'énergie. Et je pense que c'est assez cohérent d'essayer de produire de l'énergie propre, locale, le plus locale possible. Et puis, je pense aussi que le fait d'avoir une énergie qui est produite localement, nous permet aussi de faire un peu de pédagogie autour de l'énergie, justement, sur la consommation. Là, quand on voit une éolienne, on sait qu'elle produit l'électricité. Du coup, on sait d'où vient l'électricité et peut-être qu'on fait plus attention quand on sait d'où ça vient que quand ça vient de nulle part, c'est-à-dire en gros, quand ça vient à travers des gros fils et qu'on ne sait pas qui est-ce qui a ce qu'il y a à l'autre bout. D'ailleurs, c'est le rôle de l'association aussi, c'est qu'à un moment donné, on se sert de ce support-là pour faire tout un travail autour des économies d'énergie et sensibiliser les gens par rapport à ça.
Donc vous parlez justement d'énergie et d'économie d'énergie. Justement, ces quatre éoliennes, elles permettront de produire quelle quantité, entre guillemets, d'électricité?
Alors, les quatre éoliennes, il est prévu qu'elles produisent 28,5 millions de kilowattheures, si mes souvenirs sont bons. Donc, ce qui correspond à peu près à 50% de la population du pays de l'Arnée, c'est-à-dire à peu près 21 000 habitants. Donc, ce qui n'est pas négligeable quand même.
Et donc ça, ce sera forcément quand les quatre éoliennes seront en fonctionnement. Donc là, on n'est pas encore là. Justement, on a dit il y a trois éoliennes qui sont déjà debout. Il y en a une qui encore manque peut-être encore le mât et puis les pales qui doivent être installées. Où en est très concrètement le projet aujourd'hui?
Ben là, le projet, effectivement, il arrive à un stade où il est quand même très, très, très avancé. Il nous reste la quatrième éolienne qui va être montée, je pense, dans les semaines qui viennent. Je pense que le calendrier est à peu près respecté avec ce qui avait été annoncé par la société Abouin et puis le fournisseur d'éoliennes s'appelle Nordex. En gros, le chantier avait commencé au printemps, au mois de mai, je crois, et était prévu être fini mi-décembre. Et donc, la production d'électricité, très concrètement, a priori, après une phase de test qui devrait durer le mois de décembre, je pense que mi-janvier, a priori, aujourd'hui, c'est ça qu'on peut dire, mi-janvier, il y aura de l'électricité produite.
Donc là, l'objectif de l'association, c'était entre autres d'accompagner vraiment ce projet, sachant que là, il arrive quasiment à terme. Est-ce que vous avez déjà des objectifs d'accompagnement sur d'autres projets éoliens de ce type?
Alors, on a d'autres objectifs pour la suite. Ouais, il y a deux projets un peu dans les tuyaux. Pour l'instant, on peut pas en dire grand-chose parce que c'est quand même on est à des phases vraiment de démarrage aujourd'hui. Mais Vents Citoyens, on va continuer à faire un travail de prospection. Il y aura sans doute, notamment sur le territoire de la Com dernier. Un autre projet, on voudrait y associer justement la communauté de communes et toujours territoire d'énergie Mayenne. Il y a des réunions en cours, il y a des prises de renseignements sur des possibilités de projet sur certaines communes, mais pour l'instant, officiellement, on peut rien annoncer parce que c'est pas suffisamment avancé, mais les contacts sont en cours et je pense que 2021 va être encore très chargé pour l'association. D'ailleurs, on n'est que des bénévoles, donc. On est plutôt à la recherche de personnes qui seraient motivées pour porter des projets parce que ça demande une énergie assez folle de porter des projets comme ça. Et donc, nous, ça fait donc depuis 2014 qu'on a démarré. Ça fait donc 6 ans. On voit bien que le premier projet a déjà absorber pas mal d'énergie à l'association. Il est maintenant temps qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent sur des nouveaux territoires pour nous aider un peu à porter ces nouveaux projets.
L'appel est entendu. Juste une question, justement, si on est intéressé, comment est-ce qu'on peut vous joindre?
Eh ben, c'est pas compliqué du tout. On va sur Internet, on a un site qui s'appelle Vents Citoyens, forcément, et sur lequel il y a toutes nos coordonnées pour devenir adhérent, il y a un bulletin d'adhésion, il y a toutes les coordonnées, et puis sinon on a un numéro de téléphone, c'est très 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 facile pour nous.
Merci beaucoup Hervé Judon d'avoir été avec nous. On le rappelle donc, vous êtes le coprésident de l'association Vents Citoyens qui participe au projet éolien à Saint-Hilaire-du-Maine. Et puis, on s'excuse pour la petite intervention de la musique dans l'interview, qu'elle voulait partir un peu trop vite, mais c'est désormais bien son moment, l'heure d'écouter La Poison avec Smash You Up. C'était Smash You Up de La Poison sur l'autre radio. Notre rendez-vous service civique du vendredi avec un reportage venu tout droit de Neptune FM à l'Île-Dieu en Vendée. Vous y entendrez Rosaine Bernard, responsable du point information jeunesse à la mairie de l'Île-Dieu, et Louison Loprêtre en mission au sein de la structure depuis début novembre. Avec une question, la crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur le recrutement et les missions de service civique? On l'écoute.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Louison Loprêtre est volontaire en service civique au point information jeunesse à la mairie de l'Île-Dieu depuis le lundi 2 novembre 2020. La demande d'agrément au service civique n'a pas été si simple à obtenir et du fait de la Covid-19, il y eut peu de postulants et la mission a été retardée. Rosane Bernard, responsable du point information jeunesse à la mairie de Lisieux.
Alors je dirais pas forcément simple parce que c'est un gros dossier à monter. On passe par une plateforme du service civique au niveau national qui n'est pas facile à manier. Et puis après, il faut vraiment bien être clair dans notre offre de service civique. Donc ça a été un grand travail. Alors nous avons eu 4 candidatures, dont 2 jeunes basés sur Lisieux. Initialement, ça devait être au mois d'avril. Donc déjà, ça a été repoussé. Donc on a perdu en fait 6 mois et on n'a pu que recruter qu'un service civique sur 6 mois.
Ayant un diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale, Louison Loprette a pour mission d'interroger les jeunes de Lisieux pour connaître leurs besoins.
Principalement, c'est d'interroger les jeunes sur leurs besoins, leurs attentes en matière d'information. Au vu du confinement, on travaille principalement sur un outil d'enquête qui sera disponible sur Internet. Les missions vont évoluer puisque je vais pouvoir aller directement à la rencontre des jeunes et développer notre présence sur les réseaux sociaux et mettre en avant les services du PIGE, notamment sur Facebook et Instagram, qui vont permettre d'être redynamisés. Le fait que tout se mette en place petit à petit et que je rencontre de plus en plus les partenaires, je pense que le travail va être de mieux en mieux appréhendé au fur et à mesure que le temps va passer et j'espère que tout va se passer au mieux dans le déroulement global de cette mission.
Louison, tu es originaire de Bretagne. Pourquoi avoir postulé pour cette mission de service civique sur Lisieux ?
Ayant fait des études dans le secteur du social, j'ai pu être amenée à travailler avec différents publics, mais jamais uniquement le public jeune. Et puis, ça me permettait aussi de connaître un petit peu mieux le tissu social et pouvoir par la suite l'exploiter dans mon futur professionnel.
Pour Louison Loprette, cette mission de 6 mois du 2 novembre 2020 au 1er mai 2021 a un but bien précis.
Mon but, c'est de rester sur le territoire de l'Île-Dieu. Donc, avoir de nouvelles compétences pourrait me permettre de postuler, pourquoi pas, dans le secteur du social sur le territoire prochainement.
Pour le point information jeunesse de la mairie de l'Île-Dieu, cette mission a également un but bien précis.
Nous souhaitons implanter le point information jeunesse à l'arrière-port, en fait, avoir un local. Donc, c'est toute une préparation de partir des besoins, des attentes des jeunes pour pouvoir vraiment leur présenter un local à leur image avec des informations utiles pour leur avenir professionnel et personnel. Vraiment, ça va de la santé à la formation professionnelle, la formation adulte aussi, la vie quotidienne, le budget, en fait, c'est tout un accompagnement, c'est l'accompagnement de projet exactement, enfin, toutes sortes de choses. Ben, si tout va bien et s'il n'y a pas de confinement sur reconfinement, on espère au printemps.
Au printemps 2021, pour être clair.
Oui, tout à fait.
Louison Loprette est la première volontaire en service civique à la mairie de Lisieux. L'agrément est en cours durant 3 ans. De nouvelles missions seront proposées dans les prochaines semaines selon l'évolution de la Covid-19. Laurent, Neptune FM, Lisieux.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Un reportage à écouter comme tous les autres en podcast sur notre site internet l'autreradio.fr. Et puis vous le savez, on est vendredi, dernier jour de notre semaine, dernier jour aussi de la série à la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval, avec toi Claire.
Et oui, hier nous avions entendu le service restauration de la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de 5 résidents. Ils nous expliquent comment s'est passé le premier et deuxième confinement.
Je m'appelle Alexis Mielkarek, j'ai 18 ans, j'étudie à l'ESTACA, deuxième année, à Laval.
Je m'appelle Doortje Koldewey, je suis néerlandaise et je suis ici à Laval pour une année. Je suis volontaire européen pour la Cour européenne de solidarité et je travaille pour la Maison de l'Europe.
Je suis Edgar Padarounet, j'ai 21 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur à l'ESTACA en quatrième année.
Je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans, je suis là depuis un an à la résidence. Je suis auxiliaire de puériculture juste à côté.
Je m'appelle Valeria Martinez et je viens de la Colombie.
J'ai passé mon premier confinement chez mes parents. J'ai plus d'avantages dans le second. Je ne suis pas seul pour travailler. J'ai un autre collègue de l'école. Du coup, on s'aide, on suit les cours ensemble, on travaille, c'est beaucoup plus simple. Ça permet aussi de voir du monde autre que ma famille, ce que je trouve bien pour un étudiant. C'est une vraie motivation, c'est plus simple, on comprend mieux. Il n'y a que des avantages.
Je fais le télétravail pendant la semaine, mais il y a quand même des animations qu'on fait. Donc ça, c'est bien, c'est une petite sortie de la maison. Je voulais retourner chez moi au Pays-Bas, mais en fait, j'ai choisi de rester ici parce que c'est très bien d'être ici avec des autres gens, des étudiants, et oui, c'est bien de pouvoir améliorer mon français.
Le confinement nous a beaucoup rapprochés. On avait coutume juste de se voir le soir pour manger ensemble au self. On jouait au billard, on faisait un baby-foot, et ensuite chacun rentrait chez soi. Qu'avec le confinement, on passait quasiment l'intégralité de la journée ensemble. Juste chacun rentre chez soi pour dormir. Que le personnel soit toujours là, donc les permanents, les gens de l'accueil, les femmes de ménage. Ça change du premier confinement parce que dès qu'on veut faire des lessives, on peut aller directement vers eux pour acheter les jetons et payer. Alors qu'avant, il fallait toujours se tourner vers un résident qui était le représentant des résidents. Et ensuite, ils notaient notre nom, donc c'est un carnet, puis on payait déduit du loyer.
Et du coup, pendant le deuxième confinement, moi j'ai travaillé, je travaille tout le temps, donc je fais les horaires habituels. On essaye d'être là pour les étudiants, c'est vrai qu'eux ne vont pas forcément sortir, tout ça. On sort avec eux pour aller au sport, faire les courses, tout ça, on les aide aussi. Parce que moi, je peux aller au travail, je suis pas confinée, du coup je sors quand même 9 heures dans ma journée. Je pense que le Covid, il a permis d'apprendre à connaître chaque personne différemment. Parce que du coup, on était tous loin de nos familles, on était tous différents et ça permet de voir différentes personnes et de se sentir plus à l'aise après pour le reste. Enfin, quand il n'y aura plus le Covid, on se connaît super bien maintenant et on a créé une super relation entre nous, je pense.
Avant, quand j'ai travaillé au lycée et au collège, j'ai mangé presque tout le temps dans la cantine. Donc, je n'ai pas cuisiné vraiment des choses que j'ai dit « waouh, c'est incroyable ». Mais pendant les confinements, j'ai commencé à regarder des vidéos et des programmes. J'ai commencé à travailler un peu la pâtisserie française. Petit à petit, j'ai commencé à apprécier plus les choses comme ça. Et maintenant, je peux dire que j'ai presque une étoile dans la pâtisserie française. Ici, dans la résidence, je crois que vraiment les personnes qui ont travaillé ici pendant les confinements et après, vraiment, ils ont fait des choses importantes. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai connu et mieux les personnes avec qui je partage un espace.
Ces deux confinements ont donc permis aux résidents de mieux se connaître autour d'activités proposées par les animateurs, par exemple, mais aussi par eux-mêmes. Une occasion pour ces jeunes de grandir grâce à ce confinement. Finalement, il y aura quand même eu du bon.
Quelle belle conclusion. Merci Claire. Toutes les chroniques, donc toutes... Pas forcément les chroniques, c'est pas le bon terme. Tous les épisodes, en tout cas, de cette série à la résidence Habitat Jeune sont à retrouver là aussi sur notre site internet, vous l'avez compris, l'autreradio.fr. Et puis on termine cette émission avec notre petite rubrique, maintenant vous en avez l'habitude, la rubrique initiative. Et Claire, confinement oblige, les associations sportives sont fermées.
Mais ça n'a pas empêché l'association sportive Ballot de rebondir. Marion Jacot est coach sportive et diététique et propose ses cours en direct et à revoir sur sa page Facebook MaNutriFit. Des cours de sport, de cardio, de pilates, de danse pour les enfants. Et avec Pauline Armelin, des cours de Zumba. Les objectifs sont pour les deux jeunes coachs de se surpasser, de relever des défis et même de gagner des cadeaux pour certains challenges. Je vous laisse enfiler vos chaussures de sport et aller sur leur page Facebook MaNutriFit et sur le groupe de l'application WhatsApp Fit by Pauline.
Alors il y a ceux qui sont sport et puis il y a ceux qui préfèrent les activités manuelles et entre autres pour Noël.
C'est ça, la maison de quartier du Bourgny à Laval a mis en ligne un tutoriel vidéo pour réaliser un sapin de Noël. Le matériel est simple, des pages d'un vieux livre par exemple, et les étapes sont clairement expliquées pour que les enfants puissent le réaliser. Pour obtenir la vidéo, contactez la maison de quartier au 02 53 74 15 90. Ils attendent avec impatience les photos de vos réalisations.
La billetterie du festival, oui oui, les festivals existent encore au fond de la rue 2021. Leur billetterie donc est ouverte.
Le festival de Saint-Denis de Gastine a ouvert sa billetterie pour son festival prévu les 2 et 3 juillet 2021. Malgré la situation particulière, l'association Au Foin de la Rue dit être plus déterminée que jamais à faire de la culture un antidote à l'isolement, à la violence, au désespoir et à l'obscurantisme. Un long programme déjà dévoilé où on pourra écouter entre autres Philippe Catherine, Acide Arabe, Gaël Faye, Lorenzo et Fatoumata Diawara entre autres. Réservez dès maintenant vos billets sur le site aufoindelarue.com-billetterie.
Eh ben c'est noté, Claire, on espère en tout cas que ce festival pourra se tenir. Ça fait du bien en tout cas d'entendre toute cette programmation. Et puis n'hésitez pas, si vous-même vous dites « Ah mais à chaque fois elle parle des initiatives, mais elles oublient ça », eh ben n'hésitez pas justement à nous le communiquer. Alors soit par Facebook via notre page L'Autre Radio, tout simplement, ou bien sinon via notre répondeur au 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'AJT du local. Merci Claire, bon week-end.
Merci Marie, et oui, déjà vendredi, à lundi hein.
Exactement, bon week-end et à lundi. Mais vous là derrière votre poste, ne nous quittez pas, puisque à suivre à 19h, il y aura donc l'agenda de Christophe, qui sera suivi à 20h de Passe-moi le thème, consacré aujourd'hui au morceau au rythme en 7 temps. Et puis à 22h22, ce sera le moment d'écouter Autorisation de sortie, en compagnie des magiciens de la compagnie Mister Alambic. Et nous donc, on se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.